L'ouvrage qui nous est ici proposé définit un autre programme. Est-ce une utopie ? Une utopie réaliste alors, fondée par des connaissances accumulées et des engagements de terrain. Une utopie qui ne livre pas la voie toute tracée vers une société idéale, mais exprime la possibilité de résister à l'ordre établi, à l'ordre promis. On résiste contre un état de choses, mais on résiste aussi pour créer quelque chose, définir les injustices actuelles et montrer de quels matériaux pourrait être construit un monde meilleur. C'est créer les premières conditions pour que s'engage le combat victorieux. Résister, c'est créer.
Alors ça, c'est un extrait des avant-propos de Lucie et Raymond Aubrac, publié dans les premières pages de l'autre campagne, 80 propositions à débattre d'urgence. Et pour parler de l'autre campagne, on reçoit ce soir Georges de Bréjas, qui est un des coordinateurs de cet ouvrage. Alors c'est pas seulement un ouvrage, on y reviendra tout à l'heure. Et puis on reçoit aussi Damien Cru, qui est un des contributeurs ergonomes, et qui parle de ces questions de souffrance au travail.
Oui, alors peut-être pour commencer, Georges, tu pourrais peut-être nous expliquer d'où vous est venue cette idée d'initiative d'une autre campagne.
C'est un projet qui a commencé il y a tout juste un an maintenant, et on voyait arriver la campagne électorale avec le risque qu'elle soit dominée par, d'une part, des problèmes d'ego, et on voit que là-dessus on a eu raison, mais aussi, compte tenu des positionnements actuels des principaux partis, que simplement, on n'ait pas la possibilité que s'expriment dans cette campagne des propositions alternatives à cette espèce de consensus assez large autour notamment des politiques économiques et sociales libérales, autour d'un certain traitement, d'une certaine vision de la société. Et on s'est dit que c'est qu'il y avait dans l'espace militant, dans l'espace associatif, syndical et aussi dans l'espace intellectuel, une richesse de propos, une richesse de contenu, et qu'il fallait d'une certaine manière arriver à les mettre en valeur, à faire savoir le plus largement possible qu'il y avait autre chose, qu'on pouvait débattre d'autre chose que l'identité nationale pendant une campagne électorale. Et alors le moyen qu'on a trouvé, il est un peu naïf peut-être, mais c'est juste de se dire déjà les mettre ensemble, faire en sorte que ces propositions soient formulées d'une façon qui soit accessible assez largement, c'était déjà leur donner une certaine force. Et donc le travail qu'on a mené pendant à peu près 6 mois, ça a consisté à faire un tour le plus exhaustif possible, mais avec évidemment des choix éditoriaux un peu subjectifs. Donc on était un groupe de militants, de chercheurs. Qui avions ce projet, on a fait un tour de ce qui existait sur à peu près l'ensemble du champ politique en termes de propositions. On a demandé donc à ces personnes qui sont pour certaines des militants, pour d'autres des praticiens, c'est-à-dire des gens qui simplement ont une expérience de terrain de certaines situations, puis des chercheurs, on leur a demandé chacun d'écrire un texte assez court qui offre une vision de leur problématique, que ce soit le chômage, la recherche, l'immigration, la politique étrangère, et on leur a demandé de nous dire quelle proposition ils souhaiteraient voir débattre. Voilà, et donc ça fait un livre qui est l'objet qui nous a réunis au départ, mais on a aussi essayé de faire en sorte que cette autre campagne soit un processus un peu vivant, et donc ce livre en fait est accompagné d'un site qui est pour nous assez important, où en fait tous les textes sont en libre accès, sont débattus, et puis se voit complété de nouveaux textes et également de petites vidéos qu'on a mis en place maintenant depuis 4 semaines. Et chaque jour, il y a une vidéo qui reprend une de ces propositions sous une forme de ce qu'on appelle un portrait d'idée. Donc c'est des portraits face caméra de quelques minutes où la personne qui porte cette proposition la défend par oral. Voilà. Et on essaye simplement d'offrir un espace dans lequel il se dit autre chose. Et il y a des positions qui se prennent, qui sont... Alors clairement à gauche, il y a une orientation politique assez claire, mais aussi qui se veulent à la fois sérieuses, rigoureuses. C'est-à-dire que c'est des gens qui parlent soit du terrain, soit d'une expérience de recherche, donc qui n'affirment pas des choses dans lesquelles ils n'ont pas une forme d'expertise. Et voilà, ça donne des choses assez riches. Et par contraste, ça montre que cette campagne pourrait être autre chose que ce qu'elle est.
Et justement, comment est-ce que vous vous situez par rapport aux partis organisés qui ont aussi des programmes, pour certains, à défendre explicitement. Donc, comment est-ce que vous avez imaginé cette relation entre vos propositions et les forces politiques déjà en présence ?
On n'a pas de relation, c'est-à-dire que on considère que l'espace politique ne se limite pas aux partis, même en période d'élection, et on est clairement dans une démarche qui consiste à dire il y a des forces sociales, politiques, intellectuelles à gauche, et elles ont des choses à dire de façon autonome. Et les gens qui s'expriment s'expriment de façon autonome, et on n'a pas de lien avec les partis. Ce qu'on espère, c'est qu'on a des liens avec les militants de ces partis, parce qu'ils lisent le livre, qu'ils interrogent sur le site les personnes qui portent ces propositions, et on espère que ces propositions, elles diffuseront d'une manière ou d'une autre par les luttes ou par ces militants. Mais l'autre campagne ne se veut absolument pas un porte-parole de quiconque. On n'a aucune relation avec les partis, et on pense que les partis bougeront le jour où soit ils écouteront leurs militants, soit leurs militants changeront, soit je ne sais pas, mais... D'une certaine manière, ce n'est pas notre problème de savoir si les partis s'empareront de certaines de ces propositions ou non. C'est des problèmes qui nous dépassent, même s'ils sont importants. Quoi.
Moi, je voudrais revenir sur la construction même de la démarche. On a vu avec le premier extrait qu'a lu Cédric tout à l'heure qu'il y a des noms tels que Raymond et Lucie Aubrac qui sont là, mais il y a aussi il y a plein de gens assez pointus, assez des grosses pointures dans la recherche et dans le milieu alternatif. Ça a été facile de les obtenir, ce type de démarche, et a été facile à leur expliquer, à les faire venir dans ce projet.
Oui, on a été assez surpris, on a eu quasiment aucun refus parmi les gens qu'on a sollicités. Je pense qu'on a eu peut-être 2 ou 3 refus. Donc c'est effectivement assez surprenant. Je pense que les gens ont assez rapidement adhéré à cette idée que voilà, il fallait absolument faire connaître ces propositions. Alors pour les militants, c'est assez normal, je dirais. Pour ceux qui sont militants, on sait que c'est pas toujours facile d'avoir simplement la parole en dehors de cercles. Donc pouvoir être publié dans un livre, s'ouvrir, disons, dans un espace un peu plus large politiquement, c'est intéressant. Pour les chercheurs, il y a la difficulté qu'on leur demandait une proposition. Et donc, on s'attendait à avoir des refus simplement sur la base qu'il est difficile, parfois pour un chercheur, de se mettre dans cette situation, de se projeter et de dire, là, il faudrait faire ça, quoi. Et en fait, certains, on a dû les pousser un peu, hein, faut reconnaître. Certains l'ont fait tout juste, quoi. Mais dans l'ensemble, les gens ont plutôt bien joué le jeu et du coup, ça. Et bon, alors c'est vrai que l'idée de la proposition, qui est quand même une des particularités de cet ouvrage aussi, c'est vraiment de dire on ne fait pas juste de l'analyse sur ce qui est en train de se passer, on n'est pas en défensif. Et ça, c'est très inspiré effectivement par l'appel en fait de Lucie Raymond Aubrac de 2004, où il disait la résistance doit s'accompagner sans arrêt de propositions, c'est-à-dire de proposer autre chose à la place, et qu'en fait, on construit la résistance aussi en imaginant un autre possible. Et donc, c'est vrai que ça a donné. Ça a poussé les gens à sortir un peu de choses redondantes. Alors chez les militants, ça les a poussés aussi à faire des choix, ce qui était là le plus difficile. C'est que très souvent, les associations, les syndicats ont des plateformes revendicatives, et là, on leur a demandé d'en sortir une, la plus essentielle, la plus urgente, ou voilà. Mais dans l'ensemble, les gens ont bien réagi, et c'était plutôt une surprise pour nous, à vrai dire.
Et peut-être en quelques mots, pour que les auditeurs comprennent bien la démarche, tu pourrais donner un peu les grands thèmes dont vous parlez dans ces diverses propositions. Je sais qu'au départ, j'avais vu passer un peu des propositions qui étaient très parisano-centrées, on va dire ça comme ça. Puis au final, on voit que c'est quand même très, très large, vos propositions, qu'elles ne sont pas uniquement, qu'elles ne correspondent pas uniquement aux nécessités des militants de Parisiens. On va dire ça comme ça.
Si, il y a quand même, un texte sur les jardins autogérés.
Voilà.
Mais ouais, il y a même un texte de Suzanne George, donc c'est pour dire que c'est très très ouvert quand même.
Elle est parisienne.
Non,
mais c'est bon. De toute façon, je reconnais qu'il y a forcément des défauts là-dedans, et ce qui sont liés simplement au fait qu'on a toujours un prisme un peu réduit. Mais il y a vraiment une idée. Je suis sérieux sur cette histoire de site, hein, qu'on veut continuer à ouvrir. Avec le livre était une espèce de point de cristallisation à un moment donné, on espère continuer à, même au-delà de l'élection, à avoir cette espèce d'espace dans lequel on peut se faire se rencontrer ces différents partis politiques. Mais donc pour revenir à cette question, on a organisé le livre, donc il y a 80 textes en 4 grands chapitres, qui essaye de couvrir vraiment l'ensemble du champ politique tel qu'il devrait être abordé par exemple les partis, donc la politique internationale, les enjeux planétaires, qui comprend à la fois les problèmes de grands organismes internationaux, les problèmes d'écologie au niveau mondial, les problèmes de, évidemment, mondialisation, commerce international, les problèmes agricoles, et puis des problèmes plus spécifiques de la France, c'est-à-dire les liens, par exemple, avec l'Afrique, la politique euro-méditerranéenne. Ensuite, on a un gros chapitre sur les politiques sociales et économiques, avec les problèmes de services publics, évidemment, toutes les formes de services publics, les problèmes de logement, avec un texte du DAL, notamment. On a une partie sur le partage des richesses avec les questions d'impôts et d'inégalités entre les différentes régions. Un gros chapitre sur la santé, évidemment. Et puis un chapitre auquel a contribué Damien Crouy, notamment sur le travail, avec les problèmes de souffrance au travail, les problèmes de haute forme de couverture chômage qui sont portées notamment par quelqu'un qui s'appelle Evelyne Perrin de Stop Précarité et Agir contre le chômage. Alors il y a une partie un peu plus parisienne sur l'écologie, mais quand même. Et puis toute une partie, alors le troisième chapitre, c'est culture et éducation avec les problèmes évidemment d'école, très important, de recherche, etc. Et les questions, dans le dernier chapitre, c'est les questions aussi de citoyenneté, d'institutions, donc de réforme des institutions, de démocratie, de discrimination, etc. Donc c'est évidemment très large. On a une organisation qui est assez classique. Mais ça n'aborde pas tout, c'est clair. Et on a fait des choix qui sont souvent aussi liés à l'idée qu'il y a des questions qui nous semblent simplement pas posées, mal posées. Et on a fait aussi des choix par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à une forme d'originalité par rapport au discours qu'on peut entendre ailleurs, quoi.
Alors justement, autre originalité de ce boulot-là, c'est que vous avez un éditeur et puis en même temps, tout est disponible sur un site qui est assez vivant. On parlait des vidéos tout à l'heure. C'est pas des philanthropes aux éditions La Découverte. Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils acceptent que vous publiez finalement en même temps chez eux, que vous laissiez tout à libre téléchargement?
Oui, c'était une discussion qu'on a eue avec eux. C'est la première fois qu'ils font ça, mais nous, on leur a expliqué que ça faisait partie de l'aspect militant de ce travail. C'est que ces textes, on veut qu'ils diffusent, donc ils doivent être en libre accès le plus possible. J'ai pas peu d'expérience en édition, mais je suis pas sûr que ça coûte très cher à l'éditeur, puisque en fait, les gens qui achètent le livre, il y a peu de gens qui vont télécharger un par un les 80 textes sur les imprimer sur leur imprimante. Je pense qu'en fait, ça a peu d'effet sur les ventes du livre, mais ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était clairement pour nous une condition importante, même si on espère qu'on va... On a un certain intérêt à ce que le livre se vende pour faire vivre un peu l'association, puis parce que c'est quand même plus agréable, malgré tout, d'avoir... C'est difficile de lire 80 textes sur un site. Par contre... On peut y réagir et les auteurs réagissent eux-mêmes très souvent aux réactions. Donc ça veut dire que s'il y a un texte qui vous perturbe, qui vous énerve ou au contraire sur lequel vous avez un accord, vous pouvez réagir et sous quelques semaines, l'auteur vous fera une réponse.
C'est pas celle qui fait baver. Demande à fable avec là comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains entravés, de vivre en travers, la rage gravée. Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli, la rage. Car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ces barricades de béton, aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal. vu que leur choix sont bancales. Et ben tout équilibre fout le camp, la rage. Car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucle. C'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde et que ce monde y adhère. Parce que tout leur champ OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage.
On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage. Le cœur
parce qu'on a la rage.
On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage
d'y croire et faire en sorte que ça bouge.
La rage
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage
car ce monde voit rouge. Mais de cris ça s'entoure. Et parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour. Tant de grands savoirs ancestraux.
La rage
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité.
La rage
car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage
car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple
et punition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution.
La rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage.
On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage. Le cœur
parce qu'on a la rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Parce qu'on a la rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage. Le cœur
parce qu'on a la rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage.
J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain.
Inch'Allah.
À la veille d'une révolution.
Inch'Allah. Spirituelle.
Arrache du peuple, arrache du peuple.
Arabia del pueblo.
Pueblo. Parce qu'on a la rage.
Elle qui fera trembler tes normes.
Parce qu'on a la rage.
Elle crie la populace et la rage est énorme.
Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie à mes sociologues. Et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel. C'est l'émission Les Oreilles Loin du Front. Ce soir, on parle de l'autre campagne, puisqu'on reçoit Georges de Bréjas et Damien Cru. Et justement, en parlant de Damien Cru, Cédric.
Oui, donc on a choisi aujourd'hui d'inviter Damien Cru parce qu'on voit bien que sa proposition est à la croisée de différents thèmes qui sont repris dans les thématiques de l'autre campagne. Et donc Damien Cru, qui est ergonome et spécialiste des questions de santé et d'organisation du travail, a choisi de traiter la question de la souffrance, mais en sortant des habituels discours de misérabilistes sur la souffrance et individualisant. Et je propose peut-être que tu commences par expliquer comment tu saisis cette question de la souffrance au travail avant d'exprimer les propositions que tu évoques dans le livre.
Bien, moi je m'occupe de prévention des risques professionnels depuis 30 ans, hein, mais des risques, de tous les risques, pas simplement des questions psycho. C'est-à-dire, au départ, je travaillais dans le bâtiment et je me suis occupé des risques dans le bâtiment, qui sont les risques de chute et autre chose du genre. Et c'est là où je me suis aperçu que finalement les problèmes n'étaient pas que des problèmes techniques, réglementaires, ou d'organisation, mais qu'effectivement, il y avait des individus en question, des groupes sociaux en question. Et finalement, il y a une unité, on va dire, hein, dans la santé au travail, une unité aussi bien du physique et du mental, quoi, du physique, du mental et du social même, on va dire. Il n'y a pas, les choses ne sont pas découpées, même si les approches traditionnelles les découpent. Hein, l'approche traditionnelle, on va faire une campagne contre le risque de chute de hauteur, contre les accidents électriques, contre les accidents routiers, et puis etc., etc. Donc ça, déjà, c'était une première en toile de fond, hein, cette approche dite globale, que c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, ça veut bien dire qu'il ne faut pas isoler un problème d'un autre. Voilà. Et c'est vrai,
C'est vrai particulièrement de cette question de la souffrance au travail qui, depuis 10 ans, depuis notamment le livre de Marie-France Irigoyen, le harcèlement moral, eh bien, a envahi complètement cette sphère de la santé au travail. Les inspecteurs du travail, les médecins du travail, les organismes qui s'occupent de santé au travail, comme tout le réseau ANAC-TARAC, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie, tout le monde est assailli de demandes en termes de stress, de souffrance, de harcèlement, de burn-out, de mobbing, vous déclinez ça comme vous voulez. Et effectivement, face à cette déferlante du harcèlement moral et de la souffrance au travail, tout le monde était très, très démuni. Moi aussi, nous étions tous très démunis. Et il y a eu besoin vraiment de reprendre les choses un petit peu radicalement, je veux dire. Alors, bon, le premier constat, ça a été quoi ? Ça a été qu'il y a eu un emballement sur cette question. Voilà. Il y a eu un emballement. Après la diffusion du livre de Marie-France Rigolène, qui a fait 400 000 exemplaires, lui, je ne sais pas combien l'autre campagne fera, mais... 400 000 exemplaires au moins, traduction en langue étrangère, etc. À tous les dossiers, dans tous les magazines, il y a eu des dossiers qui étaient uniquement axés sur le travail, alors que le bouquin de Marie-France Irigoyen parlait du harcèlement aussi bien dans la famille qu'ailleurs. Donc c'est très, très curieux de voir combien ça réagit sur le travail. Et n'oublions pas que la loi est intervenue, la loi de 2002 est intervenue 4 ans après la sortie de ce bouquin, pour légiférer sur le harcèlement moral. Alors, des vieux briscards comme moi qui ont travaillé, par exemple, sur la question de l'amiante, on sait combien on en a bavé entre 77 et 97 avec le concept d'usage contrôlé de l'amiante. Il a fallu se bagarrer à l'intérieur même de nos propres syndicats. Je parle du mien, mais les autres, c'était pareil. Pour dire, mais on ne peut pas continuer avec l'amiante, il faut effectivement aller vers le bannissement de l'amiante, etc. Il a fallu 20 ans. Entre les premières mesures de 77 et l'interdiction en 97. Et là, en 4 ans, il y a un phénomène social derrière ça qui est quand même assez fabuleux. Voilà. Alors, ça, c'est pour camper un peu le décor. Donc, moi, j'avais pas mal travaillé ces questions de groupe, d'individus, groupe, etc., à propos des risques et des prises de risques. Et donc là, on était à peu près dans la même chose. C'est-à-dire, j'avais travaillé, par exemple, dans le bâtiment, on parlait pas mal des problèmes d'alcool. J'avais essayé d'approcher cette question-là un peu autrement que sous l'angle moral, voilà, ou sous l'angle de bonnes, gentilles recommandations, en disant si les gens boivent, c'est pour tenir le coup, au boulot, en gros. Face à quoi ? Face à la peur sur les chantiers, la peur de l'accident notamment. Voilà. Donc c'est une façon de combattre la peur. On avait travaillé ça avec Christophe Dejour. Il y avait un bouquin là, d'un comment il s'appelait ? Bon, enfin, peu importe, sur l'alcool à Flins, il disait, comment il s'appelait là ? Bon, des années 70, Flins sans fin, ouais, c'était ça. Et il disait très bien que pour faire des bagnoles, il faut de l'acier, mais il faut aussi de l'alcool. Et tout le marché noir qu'il y avait de l'alcool à Flins, c'était assez intéressant, ce qu'il racontait de ça. Bon, tout ça pour dire qu'il y a une certaine légitimité au regard même de la production, voilà, qui est niée par ailleurs par les organisateurs du travail, qui après ne se privent pas de faire la morale et de faire justement des textes de loi d'interdiction et de boire et de fumer, etc., etc. Voilà. Donc on est dans ce paradoxe-là sans arrêt, dans ce contexte-là qui est très, très paradoxal. Alors, face à ces demandes, la question était, face aux demandes qui sont formulées par qui ? Dans un premier temps, les demandes d'intervention ou de soutien étaient formulées par les salariés, essentiellement les salariés et leurs représentants, les CHSCT, les représentants syndicaux. Et puis depuis, les DRH, les dirigeants s'y sont mis également. Mais les demandes étaient formulées en termes, nous souffrons, venez montrer que nous souffrons. Voilà. Venez objectiver la souffrance. Venez faire la démonstration. Enfin, bon. Et alors ça, c'était très, très difficile d'essayer de décaler sans arrêt le problème tel qu'il est formulé. Il est formulé en ces termes-là. Pourquoi ? Il n'y a pas à discuter cette formulation, c'est parce que généralement c'est nié de l'autre côté, notamment du côté de la direction, en disant mais non, c'est rien, ce sont des individus, c'est des problèmes familiaux, un tel avec, on connaît bien sa situation, machin. Bon. Donc individualisation des problèmes d'un côté, négation des problèmes d'un côté, et de l'autre côté, surenchérissement des problèmes, en disant oui, on souffre, il y a du stress, venez le montrer, etc. Et la difficulté, c'est encore aujourd'hui, c'était beaucoup plus fort à l'époque, mais c'est encore aujourd'hui de montrer que on peut pas rester sur ce paradigme-là de la souffrance en disant oui ou non, non ou oui. Et il s'agit de reconnaître, oui, les gens souffrent parce qu'ils disent qu'ils souffrent. Moi, je n'ai rien à en dire, ils souffrent parce qu'ils souffrent. Hein. Ceci dit, ça ne permet pas d'élaborer cette constatation-là, ça ne permet pas d'élaborer une stratégie pour s'en sortir. Or, c'est ça la question qui est posée à chaque fois, que ce qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit militant syndical. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, il y en a qui proposent gentiment d'améliorer les choses, de faire venir des psychos ou de faire des cellules de crise, de médiation quand il y a des problèmes de harcèlement, etc. Ça, c'est des formules. Comment dire? Peut-être. Il faut voir à chaque fois. Moi, je ne travaille pas comme ça et je dis que c'est une façon justement de s'enquister dans cette problématique de la souffrance et de ne pas s'en sortir. Voilà. Mais c'est souvent demandé. J'étais encore la semaine dernière avec un membre de CE, cette fois-ci un secrétaire de CE d'une entreprise internationale, qui me disait: qu'est-ce que vous pensez de si on faisait une cellule avec le médecin du travail, l'assistante sociale, la DRH, pour justement résoudre les problèmes de conflit, quoi, de la médiation. J'ai dit: mais vous allez faire une cellule, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la pompe aspirante. Et tous les problèmes qui se posent aujourd'hui dans l'organisation qui occasionne cette souffrance ne sont pas résolus. Et on va dire en gros que l'encadrement va se décharger des effets de son management sur votre cellule. Donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Là, vous avez du boulot jusqu'à la retraite. Donc, vous y réfléchissez. Peut-être qu'il faut le faire occasionnellement dans un endroit où il y a... Bon, je condamne rien du tout, moi. Mais simplement, il ne faut pas se lancer à corps perdu. Et ce n'est sûrement pas la réponse unique. Alors, la réponse, quelle est-elle? Elle est à travailler dans chaque entreprise, au cas par cas. En fonction de quoi? En fonction de qui demande, des forces en présence, du problème posé. Il s'agit de discriminer un peu les situations. Voilà. De ne pas tout... mettre dans cet amalgame de la souffrance. Et alors ça, c'est le premier travail à faire avec mes interlocuteurs, hein, qui sont souvent, encore une fois, des représentants du personnel. Bon, alors de quoi vous me parlez, là? Voilà. Vous souffrez? Qui? Quoi? Comment? Depuis quand? Comment c'était avant? Est-ce que y a des lieux où ça ne se pose pas dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des lieux où ça se pose plus fortement qu'ailleurs? Enfin, essayez de distinguer un peu les choses, parce que les problèmes sont posés massivement. C'est une première caractéristique des demandes. Deuxième caractéristique des demandes, alors là, avec des amalgames autour du mot stress et tout, bon, je vous passe ça, c'est quand même un mot assez extraordinaire, le stress. Hein. Mesure de salubrité publique, souvent, je dis dans une réunion, on va essayer de ne pas utiliser le mot. Hein. Qu'est-ce que vous diriez à la place? Voilà, parlons français, je ne veux pas faire du nationalisme bébête, mais enfin, quand même, à un moment donné, quand même, un mot comme ça, un mot fourre-tout, quoi, qui est à la fois, je dis ça, un mot écran. Ça reflète bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, bien sûr. Mais en même temps, ça masque ce dont il s'agit. Quoi. Voilà. Donc voilà, une massivité de la demande. Deuxième caractéristique des demandes qui nous sont adressées généralement, c'est venez conforter mon point de vue. Quoi. Moi, je ne suis pas entendu par la direction. Donc venez prouver que ce que je dis est vrai. Voilà, et qu'effectivement, il y a de la souffrance. Et généralement, le diagnostic est posé, il y a de la souffrance parce que c'est un tel, le nouveau directeur, le nouveau chef de service, ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a déjà des causes qui sont identifiées. J'ai souvent des responsabilités individuelles. Et puis, en gros, il y a des solutions sont derrière. C'est-à-dire qu'il faut le déplacer. Oh non, on ne veut pas le licencier, on ne veut pas son licenciement, mais on veut qu'il soit mieux formé au management. Il y a ce genre de trucs. Moi, j'en entends des drôles, hein, des syndicalistes purs et durs, des fois. Hein. Bon, alors, notre problème, parce que je ne suis pas tout seul à travailler comme ça, c'est quand même d'essayer de décaler un peu de ces points de vue-là. C'est de dire, attendez, là, vous êtes en plein dans les paradigmes du management actuel qui individualise, qui moralise, qui fait du préchi-précha, et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Enfin, oui, bien sûr, un tel ou un tel, les individus sont en question dans ce qui se passe. Il ne s'agit pas de le nier non plus. Il ne s'agit pas de dire que les individualités, les personnalités n'y sont pour rien. Mais enfin, elles ne sont pas la cause de ce qui se passe. Voilà. Et vous remplacez un chef par un autre, demain, on aura la même situation, peut-être un peu différemment, mais bon. Voilà, c'est, les individus donnent la couleur, hein, une espèce de teinte comme ça, mais ça a de l'importance. Mais enfin, ce n'est pas essentiel dans ce qui se passe. Donc voilà, il faut amener les interlocuteurs à opérer ce déplacement. Et comment le faire? Hein, comme je dis souvent, il faut dépsychologiser les problèmes, les désindividualiser en essayant de mettre le travail en discussion. Le travail, avec quoi ? Avec ce que ça représente, sa réalité. De quoi s'agit-il ? Quel travail vous faites ? Hein ? Comment ce travail évolue ? Quels moyens vous avez ? Quels sont les critères d'évaluation de la qualité ? Quels sont les critères d'évaluation des individus ? Quelle est l'organisation, etc. Alors là, quand on va discuter du concret du travail, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on voit très bien à ce moment-là que des fois, il y a des ambiguïtés, y compris chez nos interlocuteurs syndicalistes. C'est-à-dire, bon, ils acceptent certaines situations tant que ça va. Puis au moment où ça ne va plus, ça se retourne contre eux. Ils ne les dénoncent pas. C'est des individus qui font mal, enfin bon, ou des choses comme ça. Donc voilà. Là, il y a une vraie difficulté à travailler, à opérer comme ça ces déplacements. Ceci dit, il y en a qui comprennent très bien, il n'y a pas de doute. Il y en a qui disent, bon, non, moi, je veux quelqu'un qui me fasse... Alors, il y a des grilles d'évaluation du stress, par exemple. Il y en a plein, maintenant. C'est très bien, ça marche, c'est officialisé par en épidémio et tout. Très bien, il y a le label scientifique. Qu'est-ce que vous faites après, une fois que vous avez passé votre grille là ? Les médecins du travail sont venus me voir pour me dire, bon, vous savez, on a évalué 60% des cadres sont à plus de, je ne sais pas combien, de 6 sur l'échelle de Karasek. On l'a présenté au CHSCT, on l'a présenté aux directions, on l'a présenté... Ben, mais ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Cru ? Ben, qu'est-ce que vous attendiez de cette évaluation ? Ils ont travaillé pendant 2 ans pour faire ce truc-là en attendant. Hein, ça défile. Bon, voilà. Alors, l'idée, c'est en opérant ce petit déplacement problématique-là, c'est de remettre, j'allais dire, de réinstitutionnaliser les choses, là, de remettre, comme je dis, de la politique, mais... Ce n'est pas forcément l'interpellation des partis politiques. Hein. Ce n'est justement pas forcément une nouvelle loi au Parlement. Mais c'est de remettre justement ces rapports entre les humains là, et surtout entre les institutions. Comment les institutions jouent. Et notamment les institutions représentatives du personnel. Mais pas uniquement. Pas uniquement. Les dirigeants, par exemple, qui ne jouent pas le rôle de dirigeant, c'est catastrophique. Mais... Là, on a un phénomène de société massif. Hein. Si on parle de l'élection présidentielle, on voit bien la désinstitutionnalisation avec l'élection du président au suffrage universel. C'est quand même la mort des partis, c'est la mort de tout, enfin de toute la pensée. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on a à faire en entreprise. Hein, l'individualisation forcenée, ça amène ça. C'est-à-dire qu'on ne traite plus des problèmes collectivement. C'est des individus mis les uns à côté des autres. C'est pour ça que le projet de l'autre campagne est intéressant. C'est qu'effectivement, les 80 propositions, elles peuvent paraître comme ça un peu mises bout à bout, mais y a une cohérence qui se dessine de l'ensemble. Je pense d'ailleurs vous l'aviez un peu pensé, hein, vous-même, les initiateurs. Mais bon, pour moi, ce projet-là convient bien. Voilà, parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comment on remet du débat, hein, et remet ces questions-là en débat. Qu'on n'est pas toujours dans l'évitement sous prétexte qu'il y en a une qui est jolie et l'autre qui n'est pas beau. Quoi. Non, ça ne va pas, ça.
Alors moi, je vais faire un peu plus lourd que ce que vous venez de dire, mais en gros, j'ai Allez. L'impression quand même que on a ces questions de stress et de souffrance au travail ont été un moyen bien commode pour abandonner les questions de lutte des classes, de confrontation entre des intérêts un petit peu antagonistes, et pour arriver sur une espèce de terrain. Moi, ce qui me surprend toujours avec cette notion de stress ou de souffrance au travail, c'est que c'est une notion qui est commune des deux côtés, quand il y a négociation, c'est à la fois du côté de la direction et à la fois du côté du personnel. Et c'est ce que je trouve inquiétant là-dedans. J'en suis même... vous allez sauter au plafond, mais je me demande parfois si Christophe Dejour, peut-être pas lui, mais en tout cas l'interprétation qui est faite assez couramment de son travail, n'a pas fait plus de mal que de bien aux intérêts des salariés. Dans la mesure où on finit très souvent par se mettre d'accord sur l'aménagement de situations très particulières pour résoudre des problèmes, mais on s'interroge plus sur les conditions de travail dans leur ensemble, l'accélération des cadences qui est à peu près décrit assez largement par un grand nombre de chercheurs, l'intensification, le demander plus avec moins de moyens, et on est dans une situation paradoxale. Et est-ce que finalement, voilà.
Oui, mais Voilà, le conflit est complètement dirigé sur une voie de garage. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein ? C'est-à-dire que le conflit posé en termes de stress. Les gens s'opposent, les gens, c'est-à-dire les institutions représentatives du personnel, les syndicalistes et les directions peuvent s'opposer sur la réalité, pas la réalité, puis il y a du stress positif et puis du stress négatif. Les définitions du stress, il y en a je ne sais pas combien, il y en a 150. Tout le monde se perd. Alors, vous arrivez dans les entreprises, les syndicalistes besogneux, sur Internet, ils vous sortent toutes les définitions, etc. Alors, puis on a même vu votre nom, monsieur Cru, tel endroit. Enfin, ils sont très instruits aujourd'hui, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est ça, là, la question. Alors, effectivement, le problème du stress, je dis bien souvent, moi, le bruit, c'est un facteur de stress. Hein, si on veut parler stress. Vous avez regardé un peu le niveau sonore, là, dans les ateliers, dans les bureaux, même, des fois. Quel travail y a-t-il à réaliser dans un bureau paysager, par exemple ? Alors, il faut répondre au téléphone, il faut se concentrer, il faut faire du reporting, des chiffres, machin, etc. Et il y a un niveau sonore effroyable. Les gens parlent là-bas, ici, là, toc, ça va, ça vient. Enfin, c'est pas possible. C'est pas la peine de parler de stress comme ça à tout va. Il faut parler des conditions de travail. Je dis bien souvent, aujourd'hui, on a une autre réalité dont on parle très peu. C'est par exemple la présence des produits toxiques, hein, des produits chimiques. Alors on en parle un peu dans les milieux spécialisés, les CMR, le décret CMR, etc. Mais les syndicalistes, où sont-ils là, sur ce champ-là ? C'est très difficile. Hein. Moi, je ne suis pas pour dire que... pour dire que je ne sais pas quoi, qu'il suffit d'y aller, se pencher sur la question. Ce sont des problèmes ardus à attraper, tous ces problèmes de santé. Mais il faut en tenir l'unité, c'est ce que je disais en préalable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une fois le problème de stress d'un côté ou de souffrance, et puis les questions du travail qui sont celles que vous avez posées, l'intensification, la réalité du bruit, les postures debout, enfin je ne sais pas, qui existent encore. Un des grands problèmes qu'on connaît aujourd'hui, reconnu même par la Sécurité sociale, c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, hein, les tendinites, l'épaule, le coude, le poignet notamment, mais pas que ça, hein, le genou et autres. Bon, tout ça, c'est dû aussi à l'accélération, aux cadences, d'accord, au fait qu'on ne peut pas souffler, et puis aussi perte de sens, hein, du boulot. On a un certain nombre d'études qui montrent ça très bien, la perte de sens du travail. Qu'est-ce qu'on fait là, quoi, voilà. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui ? Alors, mais c'est des problèmes de base. Hein. Aujourd'hui, j'étais dans un hôpital là, cet après-midi. Et alors, on me soufflait à l'oreille. Le médecin du travail me dit, vous savez, les aides-soignantes, pardon, vraiment ce qu'elles peuvent dérouiller, parce qu'elles n'ont pas le recours des infirmières à avoir des gestes techniques. Elles dérouillent pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on leur demande de faire la toilette, c'est en gériatrie, de faire une grande toilette un jour sur deux. Alors que les anciennes, c'était tous les jours. Elles ont appris ça à faire tous les jours. Elles ne comprennent pas du tout qu'on leur demande de faire la grande toilette un jour sur deux. Ça les révulse, ça les rend folles. C'est absolument inadmissible, c'est scandaleux, etc. Donc, le conflit, il est sur quoi ? Il est sur une logique gestionnaire et une logique métier. On va dire ça comme ça. Moi, j'appelle ça logique métier. On trouve ça à peu près partout. Et comment ce conflit est-il porté ? Là, aujourd'hui, socialement, hein, dans l'entreprise et hors de l'entreprise. On voit très bien, la toilette des petits vieux, ça concerne tout le monde. Hein, à l'hôpital. Ben voilà, ces conflits-là ne sont pas portés, ne sont pas arbitrés. On va parler de la souffrance des aides-soignantes.
Justement, ce qui est frappant dans ce... Dans votre proposition, c'est de parler donc du contenu du travail, ce qui est un thème qui échappe pour le moment à la plupart des discussions entre les partis. C'est-à-dire qu'on voit bon, qu'une partie de l'extrême gauche, peut-être pas organisée dans les partis, mais exclut le travail, c'est-à-dire prévoit plutôt des solutions en dehors de la sphère du travail, sortir du salariat, etc. Donc n'aborde pas de front les questions de contenu du travail. Par ailleurs, on sait que les questions d'emploi ont sollicité beaucoup, beaucoup les partis, à juste titre, hein, les conditions d'emploi des jeunes, des femmes, etc. Donc le débat s'est focalisé là-dessus. En gros, l'extrême gauche et même le PS a des propositions sur le sujet. Par contre, on ne parle pas de ce que font les gens. Et pourtant, ça peut les user. Et puis même, on peut penser que le travail n'est pas qu'une contrainte. Il pourrait être aussi une forme. Alors il faut en trouver les contours, mais il pourrait être aussi une forme d'investissement, quoi. C'est-à-dire qu'il ne soit pas réservé qu'à une classe intellectuelle, mais qu'il soit aussi réservé à des boulots plutôt liés aux classes populaires, quoi, en gros.
Ah oui. Quand le travail est-il justement, faut dire quoi, bénéfique pour le salarié, enfin une forme d'investissement, comme vous dites. Et quand cesse-t-il de l'être? Ça, c'est une vraie question, hein, parce que c'est pas clair, c'est pas toujours simple, hein, de discerner. Je ne sais pas si vous avez lu un bouquin qui s'appelle « Du ketchup dans les veines ». Je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Vous n'avez pas lu ça? C'est une femme qui a travaillé. Alors, je ne vous raconte pas tout, mais elle était en prépa. Elle avait toujours été brillante, radieuse. Elle avait tout vachement bien réussi, le bac, mention, je ne sais pas quoi. Enfin bon, très bien. Enfin, très bien. C'était très bien dans son idée et dans l'image qu'elle avait d'elle-même et de la famille et tout. Et elle se retrouve en prépa. La prépa parisienne, elle se fait déglinguer. Vous avez eu bac avec mention très bien, mais vous êtes des nuls, vous savez rien, etc. Enfin bon, et puis on commence avec des notes à moins 3, moins 20, ou je ne sais pas combien. Bon, bref, elle est écœurée, elle décide de s'arrêter à Pâques ou je ne sais pas quand. Sa copine lui dit, bah, viens bosser au McDo avec moi, puis on va se barrer en vacances. Elle va chez McDo, et chez McDo, c'est formidable tout ce que tu fais. Formidable. Et elle raconte comment elle a été prise dans le jeu McDo. Jusqu'au jour où, mais alors, elle a fait un mariage McDo, elle a fait tout ce que vous voulez McDo. Jusqu'au jour où, 200-300 après, d'un coup, elle n'en pouvait plus. Mais ce qui est très intéressant de voir dans ces formes d'organisation et du travail, c'est comment ça marche, quand ça marche. Parce qu'à un moment donné, ça marche. Pour certains, pour tout le monde, mais voilà. Et ces organisations tiennent parce qu'il y a des gens qui sont dedans et qui, voilà. C'est pas toujours uniquement la contrainte, c'est ça que je veux dire. Hein, voilà. Et alors, comment... Il y a des retournements à un moment donné. Elle a pu s'en sortir parce qu'elle avait d'autres sources. Et elle a fait de la socio, je ne sais pas quoi. Et elle a écrit son bouquin, donc ça va. Mais il y a mille et une autres personnes qui ne peuvent pas s'en sortir, qui se trouvent là justement coincées, qui se trouvent McDonaldisées ad vitam aeternam, enfin jusqu'à ce que, pour des raisons de santé, souvent, elles s'en vont, ou au troisième enfant, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ça. C'est comment on est pris dans des situations... Et puis, à un moment donné, ces situations vous emprisonnent. Ces nouvelles formes d'organisation du travail, là, sont vraiment intéressantes à regarder de près, parce que, encore une fois, on n'a pas la contrainte de la chaîne de jadis. Encore que, bon, on sait bien, les centres d'appels téléphoniques et autres, on a les contraintes pires qu'à la chaîne. Hein, mais enfin, on a d'autres contraintes qui sont vraiment dans le secteur bancaire, par exemple, ou autre. On voit ça, il y en a qui viennent d'avoir un boulot, hop, ils se lancent à fond de la caisse. Une femme qui ne prend pas tous ses arrêts de congé maternité parce qu'il faut lancer la campagne d'un produit, machin, elle y va, etc. Jusqu'au jour où il y a un retournement, elle se dit, mais c'est pas possible, mais j'ai tout sacrifié. Et c'est ce qu'on entend avec les histoires de plaintes. J'ai tout sacrifié, voilà ce que... C'est peut-être ça le problème, c'est que vous avez tout sacrifié. Là, il y a quelque chose d'une distance qui n'est plus... Hein, quand je parle d'instituer un peu les choses, et d'institutionnaliser les rapports, c'est de ça qu'il s'agit, de créer des distances. Ce n'est pas de la démarche participative, on est tous là, comme ça, collés les uns aux autres. Hein, c'est comment on peut se distinguer les uns des autres, prendre des respirations, travailler avec des rythmes différents et continuer à travailler ensemble. Voilà, c'est ça le problème hein, de l'organisation du travail aujourd'hui. Boom, boom, boom.
Alors voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. On va continuer à explorer les propositions qui sont faites par l'autre campagne. On vient d'en voir une assez longuement et d'explorer un petit peu ce qui allait autour, le domaine du travail qui allait autour avec Damien Cru. On s'est fait un petit exercice entre nous. Chacun d'entre nous a choisi une des propositions qui était dans ce livre. Pour essayer de la présenter assez sommairement pour qu'on voit quel type de propositions sont avancées. Alors Juliette, toi tu t'intéresses à quoi ?
Moi je me suis intéressée en fait à deux propositions, mais un thème qui est celui de l'immigration et du traitement qui est réservé aux étrangers en fait. Il y a deux textes principalement auxquels je me suis intéressée, c'est celui de Jérôme Valluy sur l'asile et celui d'Emmanuel Terret pour une politique alternative de l'immigration. Donc Jérôme Valluy, il part du principe en fait que le droit d'asile, qui est un droit reconnu par la Conférence de Genève, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui avait été fait notamment en réaction en fait au traitement réservé aux Juifs dans les années 30 et ensuite, et très très largement remis en question aujourd'hui. Notamment, on essaye de décourager un maximum de demandes d'asile. En empêchant déjà les demandeurs d'asile d'accéder à l'Europe ou d'accéder à des pays dans lesquels ils puissent faire leur demande d'asile. Et ça, d'une part, c'est-à-dire en déléguant les fonctions d'examen de l'asile à des pays qui ne la font pas ou qui renvoient les demandeurs dans le désert, comme ça se passe, au nord de l'Afrique. Ou bien, si jamais il y en a qui arrivent à passer en Europe, en rejetant de manière extrêmement massive les demandes d'asile, ce qui fait que le taux de demande d'asile baisse, ce qui est toujours présenté comme un succès dans la lutte contre l'immigration illégale, qui en réalité est un phénomène assez mécanique, quoi, étant donné que les demandeurs potentiels qui ont des réels problèmes et qui ont des réels besoins de demander l'asile savent de toute façon que les demandes sont très peu acceptées, mais ils demandent simplement plus. Donc Valluy parle du développement de la xénophobie de gouvernement qui est assez commune à l'ensemble des pays européens. Et sur le fait que les élites européennes, justement, cherchent à travers ça à focaliser... Je cite, focaliser les regards et les énergies sur la lutte des ethnies plutôt que sur celle des classes. Voilà, et il reprend en fait un certain nombre de propositions pour lutter contre cette constitution de l'Europe comme ce qu'il appelle un empire du rejet. Il reprend les propositions de la conférence de Rabat du 30 juin et 1er juillet 2006 dernier. Il y a un manifeste qui est disponible en ligne sur le site de l'association Migre Europe qui propose la dépénalisation du délit de séjour irrégulier et de l'aide aux personnes contraintes à ce type de séjour, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont enfermées, qui sont retenues uniquement parce qu'elles sont entrées de manière irrégulière sur le territoire. Et il y a un délit de solidarité pour les personnes qui leur viennent en aide. Deuxièmement, l'annulation des accords de réadmission, c'est-à-dire du fait qu'on puisse renvoyer un demandeur d'asile dans un autre pays qui, lui, sera chargé d'examiner sa demande. La suppression des visas de court séjour, qui contribue à précariser énormément toute une partie de la population et qui empêche en fait une véritable, un véritable travail de, je vais pas dire d'intégration, je ne sais pas quel terme utiliser, d'insertion dans le pays, quoi. La fermeture de tous les lieux d'enfermement et autres dispositifs de blocage des personnes aux frontières. L'abolition de toutes les mesures faisant obstacle aux possibilités de regroupement familial, le droit de vivre en famille étant reconnu également par la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'application complète et sincère de tous les instruments de protection internationale afin de ne pas réduire le droit d'asile à une simple fiction, les droits des migrants étant actuellement très très largement bafoués, y compris les droits de l'homme les plus élémentaires. L'octroi systématique à tous les réfugiés statutaires d'une complète liberté de circulation et d'installation et d'une protection à travers le monde, également reconnue par la Déclaration des droits de l'homme, qui en fait se transforme de facto en liberté de circulation uniquement des habitants des pays riches, quoi, des pays du Nord. Et ensuite, refondation financière et juridique du HCR. C'est quelque chose qu'on avait évoqué quand on avait reçu Jérôme Valuy, le fait que le HCR est subventionné par... subventionné. Son financement provient des pays occidentaux, quoi, des pays qui sont censés recevoir les demandeurs d'asile. Et donc, sa politique tend très largement à se calquer sur les politiques migratoires, les politiques de lutte contre l'immigration des pays du Nord.
Voilà, alors moi je me suis penché sur complètement autre chose. J'ai été voir l'article de Christian Bois-Gontier qui s'intitule « Changer la politique agricole commune », puisque comme à l'instar de Georges, je me suis dit qu'il fallait sortir du parisianocentrisme. Et puis surtout, il y a un petit truc, autant j'ai super peur quand j'arrive à la campagne, ça m'avait bouffé d'angoisse de voir des animaux, de l'herbe, tout ça. Autant j'aime beaucoup quand on dit du mal de la FNSEA, et là on est relativement servi, et y compris c'est assez argumenté. L'auteur nous explique par exemple qu'en France aujourd'hui il y a 75% des aides de la politique agricole commune qui vont à 20% des paysans. Donc il s'attaque à ces formes de concentration des aides sur les gros producteurs et au mécanisme même de la PAC qui fait que plus on est productiviste, finalement, plus on produit des aides et que toute forme d'agriculture raisonnée, on ne parle même pas d'agriculture biologique, là, mais toute forme d'agriculture raisonnée se voit quasiment pas subventionnée, quasiment pas aidée ou alors de manière dérisoire. Et alors, par exemple, on apprend des trucs étonnants. On apprend que le montant des concours publics à la production agricole 2005 versés à l'agriculture française, c'est 10 milliards d'euros. Et c'est un peu plus de 10 milliards d'euros, ce qui fait que c'est plus que le revenu total cumulé des 590 000 agriculteurs français. Il y a deux informations dans mon truc, parce que je ne savais même pas qu'il y avait 590 000 agriculteurs en France. Voilà, donc il y a un certain nombre d'infos sur comment ça se passe. Par exemple, il explique aussi qu'il y a 220 milliards de dollars versés à l'agriculture dans les pays de l'OCDE. Et il met ça en regard avec les deux petits milliards qui sont versés comme aide à l'agriculture pour tout le continent africain. Voilà. Et puis alors, il explique encore juste un dernier chiffre. Je ne vais pas vous abreuver trop, mais il explique qu'il y a 830 millions de personnes qui ont faim dans le monde et que sur ces 830 millions de personnes, il y en a 650 millions qui sont des paysans. Alors, il présente un certain nombre de propositions sur comment réformer la PAC. Et tout ça, ça se place dans le cadre d'une idée plus large qui a été très mise en avant par Via Campesina. Via Campesina, c'est l'organisation internationale à laquelle appartient la Confédération paysanne. Et c'est l'idée d'une souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que chaque pays, chaque population peut définir une politique agricole qui lui est propre et sur lesquels ils ont prise. Voilà. Alors l'auteur fait, je ne vais pas citer toutes les propositions qu'il fait à la fin de ça. Alors bon, je regretterais juste qu'il ne propose pas l'abolition de la FNSEA et l'emprisonnement des dirigeants, mais bon, ça c'est...
Leur exécution.
Il propose entre autres, pour rompre avec le productivisme, d'instaurer des mécanismes de dégressivité sur les aides pour dissuader la concentration des surfaces agricoles. Il propose d'ajuster la production agricole aux besoins du marché européen avec une répartition des cultures sur l'ensemble du territoire pour éviter des phénomènes de surproduction financés par l'Europe qui font que les marchés des pays du tiers-monde s'écroulent. Enfin voilà, il y a une série de propositions qui sont en grande partie d'ailleurs celles que défend la Confédération paysanne que j'ai trouvé assez intéressante.
C'est plus en grande partie, hein, parce que c'est effectivement, en résumé, vous avez là une photographie de ce que défend depuis longtemps la Confédération paysanne. Et c'est intéressant, pour rebondir sur ce que disait Damien tout à l'heure, c'est vrai que par rapport à ce qui a été dit sur Jérôme Valuy, il y a un lien direct entre ces politiques agricoles, le soutien qui est fait, les politiques d'exportation en particulier, et le soutien à l'exportation des produits agricoles du nord vers le sud. Et les politiques migratoires, c'est-à-dire... voilà, donc on est sans arrêt dans un contexte qui, finalement, a une certaine cohérence. Et à l'inverse, les propositions permettraient une politique agricole raisonnée, comme dit Bois-Gontier. Ce serait aussi un pas en avant vers des politiques migratoires moins violentes.
Justement,
Damien disait tout à l'heure que les propositions se rejoignent, se recoupent. On voit que la sienne, par exemple, recoupe celle de Sophie Birou sur la représentativité syndicale dans les entreprises. On voudrait savoir, est-ce que vous avez prévu de faire dialoguer aussi les gens dans un avenir, quoi, de...
Alors, en fait, j'ai effectivement pas parlé de ça. Et on a fait quelques rencontres. On a fait notamment une autour de l'idée de propriété privée. Qui s'est faite au ministère de la crise du logement, qui est le squat qui a été occupé par le DAL. Et on avait mis ensemble des gens qui donc parlent de droit au logement, d'accès au logement. D'autres parlaient de problème de propriété sociale, justement de la démocratie dans l'entreprise, la question de l'actionnariat salarié qui est en fait qui est vendu comme une résolution du conflit capital salariat, alors que c'est purement du vent, et puis le problème de la propriété intellectuelle. Et c'est vrai que sur toutes ces questions-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait poser le problème de la façon suivante. Qu'est-ce qu'on autorise comme droit associé à la propriété d'un brevet, à la propriété d'un appartement libre, par exemple, non occupé? Est-ce qu'on laisse les gens ne pas l'occuper et en faire un outil de spéculation, etc. Et on a eu des gens sur des thématiques très variées, et c'est vrai que ça, c'est un des rôles de ce projet aussi, c'est de mettre ensemble ces différentes pratiques politiques, ces différentes approches, ces différents sujets, pour arriver à construire un discours finalement plus cohérent. Et c'est vrai que le problème que pose Damien Crue tout à l'heure ne se résoudra pas sans un renforcement des processus de démocratie sociale qui sont traités aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend bien compte que la souffrance au travail ne se règle pas par des problèmes en mettant plus de médecins, ça se réglera le jour où les salariés auront accès collectivement, pourront collectivement modifier les conditions de leur propre travail. Ce qui aujourd'hui est un tabou complet. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas dans les entreprises, j'ai l'impression qu'on a en lisant ces différentes contributions, c'est que très souvent, la capacité qu'auraient les salariés à agir sur l'organisation de leur propre travail est quelque chose qui est simplement n'est jamais posé comme question. Or, on s'aperçoit que pour un certain nombre de problèmes, où c'est ça, finalement, au bout du compte, le vrai enjeu. Et je pense que en amenant ces différents problèmes sous cette forme très concrète, l'espoir, c'est aussi d'arriver à un moment donné à dire, voilà, l'élément déclencheur, ce sera ça, quoi. Et sur l'immigration... justement avec Jérôme Valluy, on va essayer d'organiser un débat où il y aura à la fois RESF et puis des gens comme Jérôme Valluy qui parlent de l'immigration au niveau intercontinental, essayer de se poser la question de mettre en parallèle les processus d'expulsion d'enfants dans les écoles et des politiques, des politiques étrangères, des politiques agricoles et des politiques... à l'égard des pays du Sud. Et je crois qu'à un moment donné, effectivement, il faut les mettre ensemble. Simplement, là, on a un panorama, ce qui nous permet de construire, en fait, ces rencontres et ces débats.
Et, bon, on voit que c'est une initiative qui regorge de propositions. Donc, bon, vous avez certes un énorme écho médiatique en venant ici. mais par ailleurs, est-ce que vous savez comment s'approprier ces propositions? Est-ce que ça déclenche des débats? Je sais que vous allez parfois en province organiser des rencontres. On rigole parce qu'on y est allés tous les deux. On a rencontré un franc succès à Grenoble. Mais bon, est-ce que vous pouvez dire un petit peu comment ça se passe sur la réception, quoi?
C'est difficile à dire. On a été très largement ignoré par les grands médias de masse, ce qui est quand même un signe de qualité évident. Ceci dit, le site reçoit beaucoup de visites. Donc ça nous rassure plutôt. On a des bons retours qualitatifs. Sur l'impact, si c'est ça la question, entre ridicule et nul, quoi, à peu près, sur les grands partis, si c'est ça. Mais je pense que...
Non, pas forcément sur les grands partis.
Non, non. mais je pense que c'est... c'est un travail de longue haleine. C'est forcément un peu plus difficile à mettre en place. Ceci dit, il y a des rencontres. Moi, je suis convaincu que ce qui s'est passé, par exemple, dans cette rencontre sur la propriété privée... a fait avancer un petit peu les choses et peu à peu on espère arriver à déplacer les problèmes justement et ça se veut essentiellement un outil pour que les gens se le réapproprient. On n'aura pas forcément la maîtrise du moment où ils se le réapproprient. Les textes sont pris, se retrouvent sur des blogs, sur d'autres sites, et on en est très content. Et donc c'est difficile de mesurer On essaie de faire un travail sérieux, un travail le plus riche possible, mais on a peu d'instruments de mesure de ce qui nous revient. Ce qui nous revient, c'est beaucoup de visites sur le site et des commentaires très positifs des gens qui interviennent, pas mal de débats et plutôt de bonne qualité pour des sites participatifs où c'est souvent dans tous les sens. Là, on a des interventions qui sont souvent très construites et... Donc voilà, et on s'en satisfait pour l'instant. Il n'y a pas d'autre ambition que d'offrir aux gens qui le veulent des contributions, des réflexions de structures comme par exemple la Confédération paysanne. Et je pense que c'est important de prendre à un moment donné 10 minutes pour lire 3 pages sur sur la façon dont la Confédération paysanne pense l'agriculture, parce que je crois que c'est vraiment très riche, très intéressant et assez décisif. Sur beaucoup de domaines, que ce soit la politique des campagnes en France, mais aussi la politique internationale. Donc c'est un appel à réfléchir par ailleurs. Et puis il y a plein de liens vers ces associations, vers ces syndicats, vers des livres, etc. Donc on peut toujours enrichir. C'est un portail, quoi.
Et toi, Damien, je suis un peu désolé de faire un peu d'intensification, mais ça va être court. Tu es avec qui ça commande de sortir de ton rôle de chercheur ou d'intervenant?
Pour ma part, enfin, moi, j'ai diffusé dans le réseau comme ça de collègues avec qui je travaille, même plus large, parce que le réseau militant, mais auprès des collègues, j'ai diffusé en disant simplement, bon, voilà, moi, j'ai été surpris aussi par... Les correspondances entre les différentes propositions. Voilà. En gros, j'ai rien découvert. J'exagère un peu, mais j'ai pas découvert grand-chose. Mais c'est de l'avoir assemblé comme ça, c'est ça la dimension politique, à un moment donné. Voilà. C'est là où la dimension politique émerge, on va dire. Parce que chacun de nous, on bricole dans notre association, dans nos groupes, nos séminaires, tout ce qu'on veut. C'est très bien. Mais on voit bien aussi qu'on bute là sur quelque chose de plus fort que nous, d'une certaine manière, et que si cette dimension politique-là ne se construit pas, on n'arrivera pas à résoudre nos problèmes un par un. Voilà, ça, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter sur ces champs-là, hein, mais voilà. Et je trouve que ça, c'est très fort. Et l'écho que j'en ai eu, alors, face à la désespérance dans le milieu, hein, il y en a qui vraiment sont pas dans les choux, là, est plutôt favorable. Voilà, hein, c'est de dire, tiens, ah, il se passe quelque chose, quoi, voilà. C'est peut-être pas radieux, mais c'est pas rien, voilà.
Voilà, bah écoute, l'émission se termine. Moi, je voulais dire que c'était, en tout cas, si ça n'avait pas d'influence à l'élection présidentielle, on s'en serait douté, pour le moins, ça aurait quand même...
Il reste trois semaines encore, en
tout cas c'est moi je l'ai vu comme un très bon outil militant, y compris la manière dont c'est fait. Ça permet sur un certain nombre de questions, y compris moi il y a certaines propositions qui me semblent pas plus excitantes que ça, mais en tout cas ça permet de faire le point sur ce qui peut être dit là-dessus, sur où on en est des débats, puisque c'est organisé aussi comme ça, et d'avancer voilà, c'est un très bon outil militant. On essaiera au moins de le faire vivre comme ça si jamais vos idées n'arrivent pas au pouvoir.
Qui sait.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission à l'impact entre nul et ridicule. Voilà, alors ce soir, quand on est à Du Monde, on fait de l'ouvrage. Pour faire une émission radio, il faut de l'alcool, mais il faut aussi des bouches et des doigts. Alors pour les doigts, ce soir, on avait Jérémy et Alex. Et puis pour les bouches, on a eu Juliette, Cédric et Guillaume. Par ailleurs, on avait aussi ceux qui seront là si jamais le pouvoir était vacant. Je vous présente donc le futur ministre du
du budget, c'était Georges, et puis le ministre du Travail au cas où, ce sera Damien Cru. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. D'ici là, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.